affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va nous emmener près d'un siècle en arrière, alors que la France et l'Europe s'embrasent dans une guerre que l'on imagine alors courte, mais qui sera, comme chacun le sait, un véritable suicide. Nous allons en effet nous projeter en août 1914, mais pas sur le front, car nous allons passer ces quelques années, non pas en compagnie des poilus, mais en compagnie de femmes, et pas n'importe lesquelles. Des femmes libres, insoumises à l'ordre bourgeois, des artistes qui, dans la tourmente, vont créer à Paris une sorte de phalanstère bohème ou de béguinage poétique, dans lequel elles s'attacheront à former une sorte de foyer féminin dans lequel elles célébreront au jour le jour l'art, la joie de vivre, l'amitié, l'amour, l'insouciance et par-dessus tout la liberté. L'histoire paraît invraisemblable et pourtant elle est authentique. On la doit certainement au talent pour la vie de Colette qui est à l'origine de cette réunion de femmes et nous avons la chance de pouvoir découvrir cette histoire enchanteresse et tumultueuse toutefois. Grâce à Dominique Bonnat qui signe aux éditions Grasset Colette et les siennes. Et Dominique Bonnat est bien sûr avec nous dans le studio pour nous raconter tout cela, je veux dire expliquer. Il ne faut pas expliquer une telle histoire, il faut la raconter. Dominique Bonnat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à nos côtés et avec nos auditeurs pour nous conter cette histoire. Comment vous est venue l'idée de ce roman ? Vous connaissiez Colette, mais vous avez décidé de faire ce focus sur cette histoire d'amitié. Quelle est la genèse du livre ?
Oui, c'est toujours intéressant de raconter comment un livre est né. Et c'est vrai que ce livre est né, en vérité, de l'évocation d'un lieu. En 1914, Colette, qui a déjà 41 ans, habite avec son mari, son tout nouveau mari, qui s'appelle Henri de Chouvenel et qui est directeur d'un des plus grands journaux de l'époque. Elle habite un petit pavillon, un chalet, parce que c'est une maison en bois, dans le 16e arrondissement à Paris, non loin du Bois de Boulogne. Et cette maison en bois, entourée d'un jardin, a été pour elle sans doute le cadre d'un nouveau bonheur. Elle recommençait sa vie à 40 ans. Elle venait d'ailleurs d'avoir son enfant, son premier enfant, que tous les lecteurs de Colette connaissent comme Belgazou. Et l'enfant, à la déclaration de guerre, est envoyé chez la belle-mère et Colette se retrouve seule dans cette maison, puisque Henri de Jouvenel a été, comme tous les hommes, mobilisés. En fait, ce sujet m'est venu vraiment de cette maison. J'ai imaginé cette Colette seule. Colette déteste la solitude. C'est sans doute une des situations qu'elle déteste le plus au monde, c'est d'être seule. Et elle se trouve là, au fond, cette maison, c'est comme un cocon, comme une enclave de douceur dans un univers qui est foudroyé par la Grande Guerre. La Grande Guerre vient d'éclater, Colette est emmurée dans cette petite maison. Et j'ai trouvé que c'était une situation à la fois romanesque, un peu dramatique également. Et Colette va appeler dans cette maison ses trois meilleures amies, au féminin, ces trois femmes dont elle est le plus proche, qui sont elles aussi désemparées, elles aussi face à la solitude, et qui vont vivre avec elle les premiers mois de 1914.
Alors peut-être qu'on peut, puisque c'est aussi une histoire d'amitié, je dis que vous étiez biographe ici, c'est polybiographie, parce que le titre dit Colette et les siennes, mais vous attardez autant sur Colette que sur ses trois amis.
Oui, oui, c'est vrai.
Et peut-être faut-il les présenter. Colette, on la présente aussi, mais enfin moins quand même, on les connaît davantage.
Oui, je veux bien présenter, bien sûr, ses trois amis, mais je crois que, en fait, cette maison et cette date particulière du 14 me permettaient d'écrire, au fond, une biographie de Colette, mais une biographie, j'allais dire, différente parce que justement au lieu d'un récit qui va de la naissance à la mort, c'est une évocation de Colette dans son âge mûr qui est un des beaux âges de sa vie. Elle est maîtresse d'elle-même, maîtresse de son destin, elle signe ses livres. Elle a signé ses livres très tard, Colette, puisqu'elle a commencé d'écrire pour quelqu'un d'autre, pour son premier mari, Willy. Elle a eu du mal à trouver, finalement, sa personnalité, sa liberté de femme écrivain. Et c'est donc ce moment précis qui me permettait de le faire. Et en plus, Colette était dans un bouquet de femmes. C'est-à-dire, elle était saisie, je dirais, dans un jeu de miroir avec les trois femmes qui lui ressemblent le plus et avec lesquelles elle a de très profondes affinités. Donc, ces femmes, voulez-vous que je dise qui elles sont ?
Alors, et qu'elle a sélectionné.
Et c'est elle-même qui les a choisies, mais enfin, elle les a choisies spontanément. Ce sont vraiment les trois femmes qui sont le plus proches d'elle. Et puis, ce sont trois femmes qui sont sans leur mari, qui sont donc rendues d'une certaine façon à une forme de liberté. Et elle la retrouve donc rue Cortambert dans cette maison. Donc, il y a là... D'abord, Marguerite Moreno. Marguerite Moreno, qui est une comédienne de théâtre, dont la gloire viendra vers la fin de sa vie avec La Folle de Chaillot. Elle jouera dans cette pièce posthume de Giraudoux et un nombre incroyable de fois. C'est une interprétation magnifique. Mais elle est là. Il faut dire que les trois femmes ont le même âge. Hein. Elles ont une quarantaine d'années. Donc, ce sont des contemporaines de Colette. C'est une grande femme dotée d'une voix exceptionnelle. Une voix de mezzo, une voix suave. Elle dit très très bien les vers de Racine, de Mallarmé. Mais en même temps, c'est une bonne vivante, une femme extrêmement joyeuse, en dépit de tous les chagrins, et je les raconte, qui ont marqué sa vie. Ensuite, il y a une journaliste qui s'appelle Annie de Peine, tout à fait inconnue aujourd'hui. Il faut aller vraiment dans les bibliothèques, chez les bibliophiles, pour trouver à la fois ses livres, des articles sur elle. Une femme a écrit une thèse sur elle, très remarquable, qui s'appelle Dominique Bréchemier, et elle a fait beaucoup de recherches sur ce personnage, mais sans parvenir toutefois à la sortir complètement de cet oubli où elle est plongée. Elle est comme Colette, journaliste et romancière, et c'est amusant de retrouver dans les livres d'Annie de Peine une communauté à la fois d'inspiration et de source. Donc, c'est deux femmes, d'ailleurs.
Oui,
c'est
ce, certainement... avant même qu'elles se connaissent. Que...
Ah oui, avant qu'elles ne se connaissent. Ah, elles ne se sont pas copiées du tout, c'est-à-dire elles avaient écrit leurs livres chacune de leur côté, elles vont continuer, mais elles ont vraiment une communauté d'idées, un destin qui presque parallèle. Toutes les deux provinciales, Colette est bourguignonne, comme chacun sait, et Annie de Peine est normande, venue de Rouen, à Paris, mener sa belle vie. Donc, et la troisième amie, qui est là aussi rassemblée, qui est un peu plus jeune que les trois autres d'ailleurs.
Franchement, plus jeune.
Pourrait être, en fait, elle pourrait être la fille des trois autres, s'appelle Musidora. Ce n'est pas son vrai nom. Musidora, c'est une sorte de nom de guerre, un nom de cabaret, parce qu'elle joue dans les cabarets, comme Colette a joué elle aussi dans les cabarets. Et c'est une jeune fille, donc une très jeune femme, qui va devenir célèbre dès 1915 dans un rôle au cinéma. Elle va jouer un rôle dans Les Vampires, qui sera un feuilleton à grand succès. Tout le monde en 1915 aura vu Les Vampires. Les gens courent au cinéma pour voir. Vous savez, le cinéma au début est un peu avec de courts épisodes. Ce sont des feuilletons, donc on suit le feuilleton au cinéma. Et elle joue justement un rôle de vampire. Et Musidora est à l'origine du mot « vamp », parce que les gens disaient « ah oui, je vais voir la vampire », parce que c'était elle, la vedette, la vampire, et puis comme c'était trop long, ils ont dit « je vais voir la vamp », et puis « vamp » est devenu le mot pour désigner justement une femme fatale, c'est-à-dire une femme dangereuse.
Elle a joué toute la série, d'ailleurs, vous racontez une anecdote, qui est vraiment une anecdote, mais donc le réalisateur lui propose de jouer le rôle de la gentille, mais en lui précisant qu'elle disparaît dès le premier épisode, si je comprends bien, ou alors le rôle de la méchante sur
12 épisodes,
je vais dire 10, ce qui fera son succès, et elle choisit de jouer la méchante, parce qu'elle se dit, au moins, je suis tirée d'affaire financièrement pour un an.
Oui, ça comptait beaucoup pour Musidora. Musi, parce qu'on l'appelle Musi, bien sûr, plus personne n'appelle Musidora, on l'appelle Musi. Musi adore jouer, elle aime jouer la comédie, elle est exceptionnelle dans le jeu d'expression, puisque le cinéma ne parle pas à cette époque. Et donc, c'est le visage et ce sont les gestes qui sont importants. Elle a joué la pantomime au cabaret avec Colette, et elle a vraiment un don du corps et du visage et des yeux. Elle a des yeux très noirs, des yeux de félaïne, on peut dire, noirs teintés de vert. C'est très mystérieux, les yeux de Musidora.
Et elle est farde.
Oui, elle est farde énormément. Donc le regard de Musidora était devenu familier aux gens qui adoraient aller au cinéma.
On l'appelait l'égyptienne aussi, je crois. C'est ça.
Oui, alors l'égyptienne, parce que justement, ses yeux fardés de noir, de kohl, lui donnaient un air oriental, c'est pour ça. Mais elle n'a rien d'égyptien, elle est née à Montmartre, elle s'appelait Jeanne, tout simplement. Et bon, elle a une jolie histoire, Musidora. Donc, si vous voulez, ces quatre femmes rassemblées créent un univers, vraiment, là, rue Cortambert, dans leur chalet. C'est un univers assez joyeux, c'est un univers en même temps très poétique, parce que ce sont quatre femmes artistes qui se retrouvent là. Toutes les quatre aiment chanter, aiment danser. Elles aiment aussi beaucoup la bonne chère, ce qui est très embêtant en 1914, parce que dès août 1914, les Parisiens ont du mal à se nourrir et trouver un poulet, Colette le raconte très bien, et Marguerite Moreno aussi dans quelques-unes de ses lettres. Donc, ces bonnes vivantes, finalement rassemblées, créent une association irrésistible. Et pour moi, ce livre, si vous voulez, c'est d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est ce livre ? Eh bien, j'ai ouvert la porte de la rue Cortambert, je suis entrée dans la maison, j'ai fait la connaissance de ces quatre personnes et d'une certaine façon, j'ai vécu un peu avec elles pour essayer de rendre à la fois l'atmosphère de la maison, mais aussi l'atmosphère de ces vies très exceptionnelles et qui gardent un parfum. Aujourd'hui encore, le parfum ne s'est pas évaporé. C'est un parfum exquis, c'est un parfum de tolérance, c'est un parfum de liberté.
C'est un parfum d'avant la guerre, même si ça se déroule pendant la guerre, non ?
Alors, un parfum d'avant la guerre, je crois qu'il est d'avant la guerre, d'après la guerre, c'est un parfum de toujours. C'est saisir finalement des vies de femmes qui sont confrontées à un univers de violence. La violence, elle est au dehors, elle est dans la déclaration de guerre, elle est dans le départ des hommes, elle est dans la peur qui s'immisce dans leur vie. Ces quatre femmes vivent quand même, elles ne savent pas ce que font les hommes sur le front, ni s'ils vont être blessés, s'ils vont être tués. Donc il y a cette angoisse qui est au cœur de leur vie. Mais en même temps, et elles ont ça de très exceptionnel, je crois, l'amour de la vie chevillé au corps. Elles n'entendent pas se priver de vivre pour autant. La vie continue. D'ailleurs, c'est vrai pour toute la population française à cette même époque. Cette guerre affreuse aura une conséquence qui est importante dans l'histoire des femmes, c'est qu'au moment de la guerre de 14, comme les hommes, disparaissent pendant près de 4 ans, ce sont les femmes qui doivent prendre le relais. Et des professions qui étaient jusque-là complètement réservées aux hommes s'ouvrent tout à coup aux femmes. Et c'est valable dans tous les milieux, aussi bien à la campagne, les femmes paysannes, à la ville, les femmes ouvrières, mais aussi dans la bourgeoisie. Et c'est valable dans le milieu de Colette, qui est un milieu plus bohème, un milieu d'artistes. Donc les femmes vont avoir davantage d'occasions d'exprimer leur talent.
Mais celle-ci travaillait déjà.
Oui, elle travaillait déjà.
Elle avait un coup d'avance quand même.
Oui, ce sont des pionnières du point de vue de la condition féminine. Ce sont des pionnières au sens, ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui gagnent leur vie. Donc elles ne sont pas dans cette notion de dépendance par rapport à un homme. Enfin, en tout cas, sur le plan financier, elles le sont quand même un peu sur le plan affectif. Parce que l'amour crée des liens dont on ne se défait pas aussi vite. Colette a écrit beaucoup autour de l'entrave. Et d'ailleurs, ce livre est aussi là-dessus, c'est-à-dire que les entraves, elles sont de toutes sortes dans la vie d'une femme et elles peuvent venir du plus difficile, justement, c'est-à-dire du plus proche. Elles viennent des liens avec les hommes de leur vie ou avec leurs enfants. Donc elles se sentent toujours plus ou moins entravées, même dans un contexte de femmes libres, de femmes libérées.
S'agissant de Colette, on sent même une tension entre des aspirations contraires, oui. Permanentes.
Oui.
Il y a une recherche d'entrave.
Alors elle est très paradoxale et c'est pourquoi il me semble qu'aujourd'hui encore, Colette peut parler justement à des femmes d'aujourd'hui, même à des femmes très jeunes d'aujourd'hui, qui entrent dans la vie par exemple à 25 ans, etc. Parce que finalement cette femme, ce n'est pas une féministe, vous voyez, cheveux au vent, une arme à la main qui va faire
elle
le combat des femmes.
Hommes.
D'abord, elle ne veut pas, elle récuse ce mot de féminisme. Elle a des mots assez durs pour les féministes de son temps, qui sont en effet des combattantes de la cause de la femme, qu'on voit défiler dans les rues avec des bannières au nom de la liberté des femmes depuis déjà la fin du XIXe siècle. Donc elle ne veut pas être ce type de femme, mais en même temps elle revendique pour elle-même d'assumer son propre destin et d'avoir voix au chapitre. Il ne faut pas oublier qu'en 14, les femmes ne sont pas des citoyennes, elles ne votent pas, elles ne peuvent pas signer un chèque, elles doivent demander l'autorisation du père, du mari, du fils. Enfin, il y a toujours un homme pour leur donner la permission de vivre. Donc, c'est dans ce contexte aussi qu'il faut voir Colette. Mais elle y va, je dirais, quand même avec des armes de femme, beaucoup avec la séduction, avec le charme, la joie de vivre. Elle applique toutes les armes des femmes. Donc, en ce sens, elle ne renonce pas à la féminité. Au contraire, elle est entièrement féminine, Colette. Hein, et c'est cet aspect-là très troublant d'elle, à la fois vouloir conquérir sa liberté, mais au fond, vouloir vivre sa vie amoureuse assez classiquement. Près du prince charmant. Il y a le rêve du prince charmant dans toute l'œuvre de Colette. Elle sera déçue de ce point de vue-là, parce que sa vie amoureuse est marquée surtout par les échecs de l'amour.
Les quatre femmes dont il est question, nous l'avons dit, travaillent et ont un coup d'avance sur l'évolution des mœurs de leur temps, mais c'est quand même un combat. C'est-à-dire que c'est pas un combat militant, mais c'est un combat personnel. Elles prennent des risques, elles se mettent en danger, elles affrontent des périodes très, très difficiles dans leur vie, notamment d'un point de vue même matériel.
Oui, ce sont des femmes courageuses, ce sont des femmes ambitieuses, ce sont des femmes qui veulent vivre leurs rêves, hein, qui vont de l'avant, qui ne se découragent pas. Et moi, j'ai appris beaucoup auprès d'elles, en fait. Elles m'ont beaucoup apporté, ces quatre femmes. Et je crois que ce qu'elles m'ont le plus apporté, c'est une qualité d'énergie, de tonus de vivre. Elles ne sont jamais fatiguées de vivre. Donc, elles voient toujours, au fond, la bouteille à moitié pleine, au lieu de la voir à moitié vide. Elles n'ont pas été épargnées dans la vie, parce que les quatre ont eu vraiment des épreuves, des deuils, des choses très difficiles à vivre. Mais, à chaque fois, c'est la joie qui l'emporte. Et en ce sens, Colette est exemplaire parce que Colette restera une femme amoureuse de la vie jusqu'au dernier jour, même quand elle est vieille, même quand elle est impotente, rongée par l'arthrite, qu'elle est devenue la grande dame du palais royal, que tout le monde vient voir dans sa chambre, elle ne quitte plus son lit à la fin, Colette, eh bien, chaque jour, quand on ouvre les rideaux pour elle, sur le jardin, quand le jour pénètre dans la chambre, elle a un sourire. Colette, c'est quand même celle qui a célébré la naissance du jour. Eh bien, ce que Colette m'a appris, ou ce que Colette nous apprend, pour les lecteurs de son œuvre, c'est que le jour se lève tous les matins.
Oui, on sent que sa vie est faite de plein de minuscules émerveillements,
oui.
Qui la sauvent des grandes tragédies, les siennes ou celles qui s'emparent de l'Europe à ce moment-là.
Oui, oui. Et il y a un côté talisman chez Colette. Voilà. Elle sait préserver le bonheur. Ça, elle le tient de sa mère, certainement, parce que sa mère lui a enseigné à goûter les menues choses de la vie, c'est-à-dire la vision d'une fleur, le vent qui souffle sur un arbre, un animal qui frétille au contact de l'eau vive, etc. Les simples petits plaisirs de la vie, elle a appris à les goûter toute petite fille, et elle ne s'est jamais défait de ce don que lui a transmis sa mère, un don d'émerveillement.
et de sensualité. Elle vit par ses cinq sens.
Les cinq sont convoqués, en tout cas dans l'œuvre. L'œuvre de Colette, c'est à la fois, en effet, le regard, le toucher, le parfum. Les cinq sens sont convoqués, vraiment. Et à la fois dans sa vie et dans les livres qu'elle écrit. Donc ça aussi, évidemment, c'était un livre très agréable à écrire, très amusant. Il y a beaucoup de choses très amusantes dans ce livre parce que on a de la chance aujourd'hui parce qu'il y a toute la correspondance qui est publiée entre ces quatre femmes. Donc leur voix aussi, on peut les entendre. On entend leur façon de parler, leur façon de s'exprimer. Donc il y a beaucoup de câlinerie, beaucoup de jeux entre elles, de blagues. Voilà, il y a beaucoup d'humour aussi. Et je pense que cet humour, il était nécessaire, surtout à cette époque, pour résister justement aux démons de la guerre et de l'histoire.
Dans cette poésie et dans ces liens amicaux, vous parlez de câlinerie, quelque chose d'absolument merveilleux et poétique, c'est l'imagination poétique des surnoms qu'elles se donnent les unes aux autres.
Oui.
J'en ai relevé quelques-uns. Annie de Pen devient mon amie d'enfance, alors qu'en fait elles se sont connues beaucoup plus tard, mais bon, elles considèrent que leur amitié est tellement proche, forte et... Elle semble être née de toute éternité, ou mon ami, avec un apostrophe devant Annie, Musicha pour Musidora, parce qu'elles sont unies aussi par un commun amour des chats, Marguerite Moreno qui devient Malguelite, c'est ça, pour que ce soit plus doux.
Enfin, plus doux et avec l'accent bourguignon de Colette, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle avait un profond accent bourguignon qui étonne aujourd'hui quand on entend sa voix. C'est vrai qu'elle roulait les R de manière spectaculaire. On n'a plus l'habitude aujourd'hui, même si les gens ont gardé l'accent de leur région, de leur province, ce n'est plus aussi marqué que cette époque. Claudel aussi avait Paul Claudel avait un accent terrible de champenois, et qui ressemble vaguement à cet accent, mais très, très accentué de Colette. Et heureusement, au théâtre, elle ne parlait pas à Colette. Parce que c'est difficile de jouer Racine avec un accent comme ça. Mais en revanche, elle jouait, comme Musidora, elle jouait la pantomime. Autant Marguerite Moreno a une voix de tragédienne, elle récitait aussi les vers de Mallarmé très bien, Marguerite
Moreno. Oui, c'est aussi de la comédie française.
Autant Colette a joué plutôt de son corps. Et même de son corps nu. On oublie ça, parce qu'évidemment, Colette est la première femme grand officier de la Légion d'honneur. À la fin de sa vie, elle a droit à des funérailles nationales. Mais la jeunesse de Colette est quand même très sulfureuse. Il y a toute une histoire de cabaret, Moulin Rouge, Alcazar, etc.
La Vagabonde.
La Vagabonde, c'est un livre qu'elle a consacré en effet à ses années d'itinérance, parce que non seulement elle jouait à Paris, mais elle partait avec les tournées théâtrales, elle partait en province. C'était un métier très dur, hein, très très difficile. Elles étaient tout le temps dans les trains, dans des hôtels de seconde zone, parce qu'à l'époque, les comédiens payaient leurs frais de transport, de costumes, etc. Donc c'était pas une vie facile.
Dans cette conservation de l'accent, moi j'avais eu tendance à penser que c'était aussi dans sa personnalité, d'abord son attachement viscéral à sa province, à la Bourgogne, et au lieu de son enfance, qui les réunit ici d'ailleurs, toutes les trois, en tout cas les trois provinciales.
Oui.
Mais aussi une volonté de montrer qu'elle se moque éperdument du qu'en dira-t-on et des bonnes manières de la société de cette époque, car en contrepoint, il faut imaginer une société, je ne sais pas, telle que la décrivait Proust, j'imagine. On n'est pas dans le même univers.
Ah, c'est pas du tout le même univers. C'est presque la même époque, mais c'est pas du tout le même univers. Proust, c'est le Faubourg Saint-Germain. C'est un monde très élégant, avec quelques météorites un petit peu étonnantes, mais dans l'ensemble, c'est quand même le Faubourg Saint-Germain, avec tout ce que cela représente, en effet, un univers codifié. Au contraire, l'univers de Colette, qui débarque, on peut dire carrément, de sa province à 20 ans quand elle épouse Willy, l'univers de Colette est beaucoup plus un Paris noctambule, tel que le lui a fait découvrir Willy, un Paris interlope avec des créatures plus ou moins fréquentables aux yeux de la bonne société, beaucoup d'acteurs, d'actrices, d'écrivains, mais d'écrivains de type Catulle-Mendès qui ont fréquenté vraiment tous les mondes, et aussi des personnalités de grandes horizontales comme Liane de Pougy ou de femmes extraverties, exceptionnelles d'ailleurs, comme Mata Hari, qu'elle a connu, ou comme Nathalie Barnet. Enfin, c'est un monde très divers, très enflammé, mais changeant, l'univers de Colette. C'est un univers bohème, alors qu'elle-même n'est pas tellement bohème au fond. Elle mène une vie régulière. Il faut imaginer quand même que Colette écrit beaucoup. Elle a passé sa vie à sa table de travail, qu'elle appelle sa table de scribe, avec sa petite lampe bleue, son stylo. Autrefois, c'était les plumes flamands. Après, elle est passée au stylo Waterman. Et elle est maniaque de cet appareil de scribe. Et elle travaille beaucoup, beaucoup. Même en vacances, quand elle est dans des maisons vraiment très agréables, que ce soit en Bretagne ou plus tard à Saint-Tropez, eh bien, elle est rivée à cette table de travail. Le nombre d'articles, le nombre de livres de Colette est quand même considérable. Donc, cette femme bohème et qu'on associe vraiment au plaisir de la vie, plaisir au pluriel de la vie, eh bien, c'est une grande travailleuse. C'est un bagnard de la plume.
Elle est un peu casanière aussi, même.
Elle aime les maisons, on va dire, plutôt. Donc, casanière, oui, dans la mesure où elle aime les maisons, parce qu'elle a quand même vécu aux quatre vents en même temps. Elle a beaucoup bougé, elle a beaucoup changé de maison. Mais ce que Colette aime, et peut-être est-ce dû justement à ce goût de l'écriture, l'écriture va avec un certain enfermement. En même temps, il faut être au calme pour écrire. Et Colette aime les maisons, les décors, un peu comme Balzac d'ailleurs aussi, qui avait ce même goût de la décoration des maisons. Et dont la maison n'était pas si loin, exactement.
Aussi dans le 16e. C'est du côté de Passy.
Alors, hein, oui, il faut revoir. Moi, j'ai aimé aussi ressusciter tout ce quartier de Paris, parce que c'est amusant. Les Colette, donc rue Cortambert. Mais les trois autres sont également dans ce 16e arrondissement. Alors, donc, je donne les adresses, je décris leur habitat. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui habitent là, dans ce 16e. Mais c'est un 16e. Aujourd'hui, le 16e, ce côté chic, etc. Non, à l'époque, c'est vraiment la campagne. On est près des fortifications de Paris, près du bois de Boulogne, qui est une immensité noire la nuit. Rien n'est éclairé dans ce quartier. Il y a des petits jardinets, mais qui ne sont pas des parcs à l'anglaise, qui sont des jardins fouillis, avec précisément des chats. Il y a des écureuils. D'ailleurs, il y a un écureuil que Colette recueille dans cette maison. Il y a des poules, des canards. Voilà, et donc c'est un monde qui a aujourd'hui disparu. Mais en marchant dans ce quartier, en retrouvant les adresses, on peut rêver encore.
Alors dans cet univers féminin, il y a quand même un personnage masculin qui est à la fois absent mais extrêmement présent, et c'est la figure d'Henri de Jouvenel. Est-ce que vous pouvez nous le présenter aussi à travers le regard de Colette, bien sûr, mais aussi des autres femmes.
Oui, de toute façon, quand les femmes sont entre elles, il y a toujours un homme, ou deux, ou trois, ou quatre, à l'arrière-plan. Oui, c'est
là,
évident.
Il y en a même un peu plus.
Et, alors, chacune a son homme, en fait. Chacune a son homme qui est parti à la guerre, ou non, d'ailleurs, parce que certains sont malades. Mais chacune a son homme et cultive, au fond, son souvenir, pense à lui, voilà. Chacune est liée, quand même, à un homme. Mais effectivement, le personnage le plus éclatant, c'est le mari de Colette, c'est Henri de Jouvenel, qui est un personnage un peu du sud-ouest, qui a une belle moustache, des épaules solides, et un énorme talent, à la fois de journaliste, mais peut-être plus d'ailleurs aussi d'homme politique. Il a des convictions politiques. C'est un homme qui partage avec Colette le goût de la liberté, donc il n'est pas embrigadé dans un parti. C'est un indépendant, mais il a des idées radicales, on va dire, radicales, plutôt à gauche. Et c'est un militant de la paix. Pas de chance, la guerre de 14 éclate, il doit partir, il aura une très belle guerre, il va recevoir d'ailleurs la croix de guerre, il ne se défile pas du tout, il est là, d'ailleurs son frère aussi, son frère qui a écrit, Jouvenel également, qui a écrit un livre qui s'appelle « La République des camarades », donc ce sont des gens qui sont engagés dans le combat de leur époque. Au sortir de la guerre, et même avant la fin de la guerre, Henri de Jouvenel va s'engager en faveur de la paix, essayer créer des alliances, d'abord entre certains hommes politiques, entre des pays. C'est un homme qui a vraiment un idéal qu'il va essayer de porter. Malheureusement, il va mourir jeune, il mourra avant la Deuxième Guerre mondiale, il meurt en 1935. Foudroyé par une attaque cardiaque. Et il meurt vraiment trop jeune parce qu'on peut imaginer qu'il aurait pu poursuivre justement ce rôle. C'est un homme qui a beaucoup cru à la Société des Nations, qui croyait à l'alliance supranationale pour dépasser justement les conflits européens. Et voilà, c'est l'homme qui a épousé Colette. Colette l'a connue parce qu'elle est entrée au matin comme chroniqueuse. On lui avait confié cette rubrique des contes des mille et un matins. C'était une rubrique qui existait déjà et où elle a fait évidemment des merveilles. Et elle a connu Henri de Jouvenel au journal et ça a été entre eux un véritable coup de foudre. Donc c'est vraiment une passion amoureuse.
Réciproque,
qui va mal finir, comme beaucoup de passions quelquefois.
Henri de Jouvenel avait d'autres passions.
Alors, il avait d'autres passions, la politique.
Vous l'avez évoqué, la politique au premier chef.
Mais aussi les femmes. C'est un homme à femmes, Henri de Jouvenel. Et il a eu des femmes avant Colette, il en aura après. Et en vérité, il faut penser aussi que tous ces hommes qui ont vécu la guerre de 14, qui sont partis au front, qui se sont battus, qui ont vu mourir leurs camarades, qui ont été blessés, ça a été son cas lui-même, le cas de son frère, enfin, et ils ne sont pas revenus indemnes de cette guerre. Et Henri de Jouvenel, de retour de la guerre, n'est pas celui qui était parti en 1914. Donc il a perdu finalement 4 années de sa jeunesse, il a envie de vivre. Et dans cette envie de vivre, il y a beaucoup de femmes. Certaines seront spectaculaires, d'ailleurs. Il aime les femmes. Je remarque, dans la vie d'Henri de Jouvenel, vraiment, il n'y a que des femmes de caractère, des femmes formidables.
Dans la vie de Colette aussi,
parmi ses maîtresses et parmi ses femmes.
Allais-je dire.
Oui. Ah, dans la vie de Colette, il y a les hommes, mais il y a aussi les femmes. Ces femmes, en 14, ce sont des amies, des compagnes, mais Colette a connu dans sa vie un véritable amour pour une femme. Elle a partagé pendant 5 ans, avant la guerre de 14, avant de rencontrer Henri de Jouvenel, elle a vécu avec Mathilde de Morny, qui était marquise de Morny et qui était la dernière fille du duc de Morny. Et pendant 5 ans, elles se sont aimées. Elle a même porté autour de son cou, Colette, pendant ces 5 années, un petit collier en or sur lequel étaient gravés ces mots « J'appartiens à Missy ».
Encore un surnom,
il ne faut pas confondre Missy et Musy. Missy, c'est le surnom de Mathilde de Morny. Et c'est Mathilde de Morny qui, en cadeau de rupture, va lui offrir cette maison de Bretagne où Colette va être si heureuse avec Henri de Jouvenel, qui s'appelle Rosven, à côté de Saint-Malo. Et c'est à Rosven, d'ailleurs, que la surprend la déclaration de guerre. Une maison au bord de la mer.
Écoutez, vous donnez envie de,
oui,
de les connaître. Celle-ci
oui,
est encore debout.
Elle est là. Oui, oui, la maison de Rosven est toujours là. Elle appartient à une famille. C'est une maison privée qui a encore une vraie vie. Alors que la maison de la rue Courtembert, le chalet, comme l'appelle Colette, le chalet a disparu. Il s'est écroulé en 1916 parce qu'il était vétuste et il n'a jamais été reconstruit. Donc aujourd'hui, on peut voir un immeuble en pierre de taille.
C'est bien
des
avant,
années 30.
Presque autant que la disparition de la Villa Bel Air à Marseille.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est aussi un lieu littéraire qui a disparu. Oui. Mais enfin,
on peut voir la maison de Saint-Tropez aussi, de Colette. Elle existe toujours. Mais alors, cette maison de Saint-Tropez dont je parle peu dans ce livre, puisque la maison de Saint-Tropez vient bien après, elle vient avec le troisième homme de la vie de Colette, celui qui sera son dernier mari, et avec lequel elle va vivre là-bas.
Alors on évoquait l'engagement politique d'Henri de Jouvenel, c'est le cas d'ailleurs aussi de la plupart des familles ou des époux des autres protagonistes. En revanche, la politique leur passe totalement par-dessus la tête,
ah oui,
elle s'y refuse même de façon déterminée, semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a une forme de résistance même à l'esprit d'embrigadement, de militantisme, comme si elles avaient la prescience que mener de tels combats allait les assécher.
Oui, c'est très juste, c'est très juste. En fait, la politique n'intéresse pas Colette, n'intéresse pas ses amis. La politique, je dirais presque, c'est l'ennemi. Parce que la politique accapare les hommes de leur vie. La politique est à l'origine, justement, de certains drames nationaux comme la guerre. Donc la politique, elle ne l'aime pas. Et je dirais même, elle ne s'y intéresse pas du tout. L'abbé Munier, qui est un grand témoin de cette époque, a souvent vu Colette au retour de la guerre, après la guerre, en 19, par exemple, en 19, en 20, encore en 21. Et là, il va dîner chez elle. Elle n'habite plus le chalet de la rue Cortambert, mais elle habite pas loin de là, boulevard Suchet, dans un autre hôtel particulier, toujours avec Henri de Jouvenel, cet hôtel particulier qui avait appartenu à une grande comédienne qui s'appelle Ève Lavallière. Et donc, elle reçoit, mais l'abbé Munier, qui a l'habitude de sortir dans le monde, y compris dans le monde proustien, donc il sait comment on se tient dans le monde, est extrêmement étonné, parce que justement, elle organise des dîners visiblement pour son mari, donc elle invite le ministre de la guerre, le ministre de ceci, le ministre de cela, un ambassadeur, mais elle-même vraiment dénote, on peut dire, dans ce qui aurait dû être un dîner de tête, un dîner très élégant, destiné à promouvoir la carrière d'Henri de Jouvenel, à la fois dans les milieux gouvernementaux, mais aussi dans la diplomatie. Il a toujours espéré être ambassadeur. Et en fait, elle arrive un peu dépoitraillée, elle a toujours aimé montrer sa poitrine, elle a ses cheveux un peu fous, pas du tout peignés en chignon comme c'était le cas, ou coiffés raisonnablement. Et surtout, elle a ce langage de liberté qui choque énormément dans la société. L'abbé Munier le relève, s'en amuse énormément, mais ajoute, il est certain que dans la carrière de Jouvenel, à partir des années 20, Colette est plutôt un handicap. Et d'ailleurs, quand il sera question pour lui d'être nommé ambassadeur, je ne sais plus si c'est en Allemagne, la presse locale publiera une photo de Colette nue, enfin avec le sein découvert, dans un de ses spectacles les plus fameux d'avant-guerre, en disant « Madame l'ambassadrice de France ». Donc, elle perd un peu, disons, le contrôle de la situation, mais sans pour autant s'amender. C'est ce qui est absolument plein de charme chez elle, c'est que jamais elle ne joue à être quelqu'un d'autre. Elle est elle-même, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais elle est elle-même.
Peut-être la différence avec les militants que j'évoquais, hein. On n'a pas moyen de retourner sa veste quand on n'a pas une veste.
Non, elle n'a pas de veste du tout, Colette. Elle est sans emmanchure, en tout cas. Et c'est vrai que c'est ça, Colette. Hein. C'est ce parfum d'insolence en même temps. C'est une insolente, c'est une indomptable, c'est une irréductible. Je n'ose pas le mot, c'est une insoumise, parce qu'aujourd'hui, quand on dit insoumis, le mot est captif. Le mot n'est plus ce qu'il veut dire, parce que justement, il est devenu politique, ce qu'elle détesterait. Mais d'une certaine façon, c'est une femme qui n'a jamais obéi aux règles, qui s'en est toujours affranchie, mais je dirais sans programme préalable. Avec une sorte de naturel parfait. Elle s'affranchit des règles et puis voilà, sans en faire un livre de philosophie.
Alors précisément, il faut peut-être rappeler qu'elle traverse des événements dramatiques. Même dans la période où elles sont rassemblées dans les maisons, il ne faut absolument pas croire qu'elle ne se soucie pas de ce qui se passe. Au contraire, elle peut même s'engager dans ces événements. Anne de Pen sera reporter de guerre. Vous dites même rivale d'Albert Londres, ce qui n'est pas rien.
Ah, mais c'est quand même une femme qui est descendue dans les tranchées en 1915. Elle est allée voir les soldats dans les tranchées en 1915. Elle a même traversé les lignes au péril de sa vie. C'était très compliqué d'y arriver pour aller apporter un bouquet de fleurs à la reine des Belges. Moi, je trouve ça magnifique. C'est une femme de panache. C'était une toute petite femme, une brunette, qui n'en imposait pas du tout physiquement. Qui avait sa petite histoire à elle, sa petite musique, comme on dit, mais elle était d'un courage exemplaire. Et je dois dire, d'ailleurs, vous m'avez posé la question tout à l'heure par rapport à la politique, Colette comme Annie de Peine ont toujours écrit leurs articles, y compris pendant cette période difficile de la guerre, d'un point de vue féminin. Ça ne les intéressait pas d'avoir le plan stratégique, etc. Elles disaient ce qu'elles voyaient. Elles le disaient avec leurs yeux, elles le disaient avec leur cœur. Et ça a eu beaucoup de succès à ce moment-là, parce que les lecteurs y trouvaient une vérité.
Oui, on était loin, évidemment.
C'est pas la langue de
des
bois.
Des grands placards et... patriotiques.
Exactement. Exactement. Et la souffrance, elles l'ont vue, elles l'ont dite. Et Annie de Peine l'a payée très cher. D'ailleurs, il y a eu une campagne de presse contre elle, très virulente, parce que elle s'était permis de défendre des idées pacifistes.
Oui, comme montrant la souffrance, on allait casser le moral, j'imagine.
Oui, c'était interdit, il y avait une censure, beaucoup de ces articles ne sont pas parus ou ont été gravement censurés, c'est certain.
Alors qu'elles, finalement, n'ont-elles pas, l'une comme l'autre, un regard pas tant de journalistes que de romanciers, finalement. Elles mettent en scène des gens dans leur, dans la façon dont ils affrontent l'événement, c'est intimiste.
Oui, il y a une intimité, il y a aussi le côté brûlant du journalisme, c'est-à-dire on écrit à chaud directement sur l'événement, c'est un témoignage en même temps, cette forme de journalisme, mais je dirais que la romancière est toujours présente dans la journaliste, parce qu'elle a une manière de conter, une manière de mettre en scène, une manière de faire parler les personnages, qui vraiment vient de son talent pour le roman. Je crois qu'on peut pas départager. Je crois que Colette, elle est une et protéiforme. C'est-à-dire que c'est toujours elle dans ses différents langages, que ce soit... Elle parle toujours, on l'entend, Colette, dans tous ses livres. Depuis les premiers livres, même écrits avec Willy et sous la houlette de Willy, les fameux Claudine, jusqu'au dernier, jusqu'au Fanal Bleu. C'est cette voix musicale, cette voix chaude qui vous enveloppe, qui vous rassure et qui vous entraîne vers la joie de vivre.
Alors, un siècle de distance, que vous ont dit ces femmes, puisque vous avez vécu dans leur intimité, vous nous le disiez au début de l'émission, que vous ont-elles transmis ?
Eh bien, j'ai retrouvé avec elle la devise qui était celle de mon premier éditeur. Quand j'ai publié mes premiers livres, j'ai été publiée par une femme merveilleuse qui s'appelle Simone Gallimard et qui dirigeait le Mercure de France. Et Simone Gallimard, qui tenait tous ses auteurs pour ses enfants, avait une devise. Elle était bretonne, donc c'était une devise des mousses, des petits mousses sur les bateaux, c'est « hardi petit ». Eh bien, Colette et ses amis, au fond, c'est ça, c'est « hardi petit ». Aussi petit que l'on soit, aussi modeste, aussi étouffé que l'on soit par les conditions de la vie, il y a toujours un moyen de s'exprimer, de parler, de dire, et c'est ça, finalement, cette force de Colette qui irradie tous ses livres, et que j'ai aimé. Et j'espère que vous l'avez aimé aussi.
Je l'ai aimé aussi, j'invite nos auditeurs à faire leur cette lecture, mais aussi cette très belle devise que je ne connaissais pas, hardi petit, hardi auditeur de Canal Academy, hardi les petites radios libres.
Oui.
Je reprécise, pour donc poursuivre cette conversation, les références de votre ouvrage, Colette et les siennes, par Dominique Bonnat aux éditions Grasset. Et peut-être un dernier conseil pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers de l'œuvre de Colette, par lequel commencer ?
Ah oui, ça c'est une question. Alors, je veux dire mes préférences. Pourquoi pas laisser un peu les Claudines qui sont les premiers livres et commencer directement par Les vrilles de la vigne ou par La naissance du jour.
Merci pour ce conseil. Hardi les lecteurs. Thank you.